Chapitre 31. On admire avec quelle facilité un homme honnête, timide et doux, peut commettre un crime horrible. Profondément attristé par les propos obscurs du jeune Maurice, M. Sarriette prit l'autobus et se rendit chez le père Guinardon, son ami, son unique ami, le seul être au monde qui eut plaisir à voir et à entendre. Quand M. Sarriette entra dans le magasin de la rue de Courcelles, Guinardon était seul et sommeillait au fond d'une bergère antique. Les cheveux bouclés et la barbe fleurie, il avait la face cramoisie. Des filaments violets sillonnaient les ailes de son nez empourprés par le vin de Bourgogne. Car on ne pouvait désormais se le dissimuler, le père Guinardon buvait. À deux pas de lui, sur la table à ouvrage de la jeune Octavie, une rose achevait de sécher dans un verre tari et dans une corbeille un ouvrage de broderie gisait interrompu. La jeune Octavie quittait de plus en plus souvent le magasin et M. Blanc-Ménil n'y venait jamais quand Daniel s'y trouvait pas. La cause en était qu'ils se rencontraient 3 fois par semaine, à 5 heures, dans une maison de rendez-vous près des Champs-Élysées. Le père Guinardon n'en savait rien. Il ne connaissait pas tout son mal, mais il en souffrait. M. Sarriette serra la main à son vieil ami, ne lui demanda pas de nouvelles de cette jeune Octavie, car il ne reconnaissait pas les liens qui les unissaient l'un à l'autre. Il aurait plus volontiers parlé de Zéphirine, cruellement abandonnée, et dont il souhaitait que le vieillard fît sa légitime épouse. Mais M. Sarriette était prudent. Il se contenta de demander à Guinardon comment il se portait. « À merveille !» affirma Guinardon, qui se sentait souffrant et affectait la vigueur et la santé depuis qu'elle le quittait. « Dieu merci, j'ai gardé la force du corps et de l'esprit. Je suis chaste. Sois chaste, Sarriette. Les chastes sont forts. » Le père Guinardon avait tiré, ce soir-là, de la commode de bois de Violette quelques livres précieux pour les montrer à un distingué bibliophile, M. Victor Meyer. Et après le départ de son client, il s'était endormi sans les remettre en place. M. Sarriette, que les livres attiraient, vit cela sur le marbre de la commode et se mit à les examiner curieusement. Le premier qu'il feuilleta fut la Pucelle en maroquin, avec la suite anglaise. Sans doute il en coûtait à son cœur français et chrétien d'admirer ce texte et ses figures, mais un bel exemplaire lui semblait toujours vertueux et pur. Tout en causant très affectueusement avec Guinardon, il prit tour à tour dans ses mains des livres que l'antiquaire prisait pour la reliure, les estampes, la provenance ou la rareté. Puis, il poussa soudain un cri sublime de joie et d'amour. Il venait de retrouver le Lucrèce du prieur de Vendôme. Son Lucrèce qu'il pressait contre son cœur. « Je le revois enfin, » soupirait-il en l'approchant de ses lèvres. Le père Guinardon ne comprenait pas très bien d'abord ce que son vieil ami voulait dire. Mais quand celui-ci lui eut déclaré que ce livre faisait partie de la bibliothèque d'Esparvieux, que ce livre était à lui, Sarriette, et qu'il l'emporterait sans autre forme de procès, l'antiquaire, tout à fait réveillé, se dressa debout et déclara net que le livre était à lui, Guinardon, qu'il l'avait bien et dûment acheté, et qu'il ne le donnerait que contre 5 000 francs bien comptés. « Vous ne comprenez pas ce que je vous dis, » répliqua Sarriette. « Ce livre appartient à la bibliothèque d'Esparvieux, je dois l'y réintégrer. »« Pas de ça, Lisette, ce livre m'appartient. Vous êtes fou, mon bon Sarriette. » Observant qu'en effet, le bibliothécaire avait l'air égaré, il lui tira le livre des mains et essaya de détourner la conversation. « Avez-vous vu, Sarriette, que ces cochons-là vont éventrer le palais Mazarin et recouvrir de je ne sais quel ouvrage d'art la pointe de la cité, le lieu le plus auguste et le plus beau de Paris ? Ils sont pis que les Vandales, car les Vandales détruisaient les monuments de l'Antiquité, mais ne les remplaçaient pas par des bâtissements ou des ponts d'un style infâme comme le pont Alexandre. Et votre pauvre regard en cierre, Sarriette, est la proie des barbares. Qu'ont-ils fait du joli mascaron en bronze de la fontaine Palatine ? » Mais Sarriette n'entendait rien. « Guinardon, vous n'avez pas compris, écoutez-moi. Ce livre appartient à la bibliothèque d'Esparvieux. Il en a été distrait. Comment ? Par qui ? Je l'ignore. Il s'est passé des choses terribles et mystérieuses dans cette bibliothèque. Bref, ce livre a été dérobé. Je n'ai pas besoin de faire appel à vos sentiments de haute probité, mon bon ami. Vous ne voulez pas passer pour un receleur ? Donnez-moi ce livre. Je le restituerai à monsieur d'Esparvieux, qui vous indemnisera, vous ne sauriez en douter. Fiez-vous à sa libéralité et vous agirez comme un galant homme que vous êtes. L'antiquaire sourit avec amertume. Que je me fie à la libéralité de ce vieux Grigaud d'Esparvieux qui écorcherait une puce pour en avoir la peau ? Regardez-moi, mon beau Sarriette, et dites si j'ai la tête d'un Jocrisse. Vous savez bien que d'Esparvieux a refusé de payer 50 francs à un brocanteur le portrait d'Alexandre d'Esparvieux, le grand aïeul, par Hersant, et le grand aïeul est resté sur le boulevard Montparnasse, vis-à-vis du cimetière, à l'étalage d'un juif où tous les chiens du quartier viennent pisser dessus. Que je me fie à la libéralité de monsieur d'Esparvieux ? Vous en avez de bonnes. « Eh bien, Guinardon, je m'engage à vous donner moi-même l'indemnité que les arbitres fixeront. Vous entendez ? Ne faites donc pas le magnifique avec des ingrats, mon bon Sarriette. Ce d'Esparvieux a pris votre savoir, votre activité, votre vie entière pour un salaire dont un valet de chambre ne voudrait pas. Laissez donc cela. D'ailleurs, il est trop tard. Le livre est vendu. Vendu ? À qui ? Demanda Sarriette avec angoisse. Que vous importe ? Vous ne le reverrez plus ? Vous n'en entendrez plus parler ? Il va en Amérique. En Amérique ? Le Lucrèce aux armes de Philippe de Vendôme ? Avec des notes de la main de Voltaire ? Mon Lucrèce, en Amérique ? Le père Guilardon se mit à rire. Mon bon Sarriette, vous me rappelez le chevalier des Grieux quand il apprend que sa chère maîtresse sera transportée au Mississippi. Ma chère maîtresse au Mississippi ? Non, répliqua Sarriette très pâle, non, ce livre n'ira pas en Amérique. Il rentrera comme il se doit dans la bibliothèque d'Esparvieux. Donnez-le-moi, Guinardon. L'antiquaire s'efforça une deuxième fois de couper court à un entretien qui avait l'air de tourner mal. Mon bon Sarriette, vous ne me dites rien de mon Gréco. Vous ne le regardez même pas, il est pourtant admirable. Et Guinardon, mettant le tableau sous un jour favorable, voyez ce saint François, le pauvre du Seigneur, le frère de Jésus. Son corps fuligineux s'élève au ciel comme la fumée d'un sacrifice agréable, comme le sacrifice d'Abel. Le livre, Guinardon, fit Sarriette sans tourner la tête. Donnez-moi le livre. Le sang monta soudain à la tête du père Guinardon, tout rouge et les veines du front gonflées. En voilà assez, dit-il. Et il mit le Lucrèce dans une poche de son veston. Aussitôt, le père Sarriette se jeta sur l'antiquaire, l'assaillit avec une fureur soudaine et, tout débile qu'il était, culbuta le robuste vieillard dans la bergère de la jeune Octavie. Guinardon, étourdi et furieux, vomit d'effroyables injures sur le vieux maniaque et l'envoya d'un coup de poing à quatre pas contre le couronnement de la Vierge, œuvre de Fra Angelico, qui s'abattit avec fracas. Sarriette revint à la charge et tenta d'arracher le livre de la poche où il était enfermé. Le père Guinardon l'aurait assommé cette fois-ci, aveuglé par le sang qui lui montait à la tête, il n'avait frappé à côté sur la table à ouvrage de l'absente. Sarriette s'accrocha à l'adversaire étonné, le maintint renversé dans la bergère et, de ses petites mains décharnées, lui serra le cou qui, déjà très rouge, devint cramoisi. Guinardon faisait effort pour se dégager, mais les petits doigts, sentant la chair chaude et molle, s'y enfonçaient avec délice. Une force inconnue les attachait à leur proie. Guinardon râlait, la salive coulait d'un coin de sa bouche. Sous l'étreinte, son corps énorme s'agitait par intervalles, mais les secousses devenaient de plus en plus saccadées et rares. Elles cessèrent. Les mains homicides ne se desserraient pas. Sarriette dut faire un violent effort pour les détacher, s'étant bourdonné. Pourtant, il entendit la pluie tomber, des pas amortis passer sur le trottoir. Au loin, des aboyeurs criaient les journaux. Il vit des parapluies passer dans l'ombre, il tira le livre de la poche du mort et s'enfuit. La jeune Octavie ne rentra pas ce soir-là au magasin. Elle alla coucher dans un petit entresol au-dessus du fond d'antiquité que M. Blanc-Ménil venait de lui acheter dans cette même rue de Courcelles. L'homme de peine, chargé de fermer le magasin, trouva le corps de l'antiquaire encore chaud. Il appela la concierge, Madame Lenain, qui étendit Guinardon sur un canapé, alluma deux bougies, mit un brin de buis dans une soucoupe pleine d'eau bénite et ferma les yeux au défunt. Le médecin, chargé de constater le décès, l'attribua à une congestion. Averti par Madame Lenain, Zéphirine accourut et veilla le mort. Il avait l'air de dormir. À la lueur tremblante des bougies, le sein du Gréco montait comme une fumée. Les ors des primitifs brillaient dans l'ombre. Près du lit mortuaire, on voyait distinctement une petite femme de Baudouin qui prenait un remède. Toute la nuit, on entendit à 50 pas dans la rue Zéphirine se lamenter. Elle disait « il est mort, mon ami, mon Dieu, mon tout, mon amour. Non, il n'est pas mort, il remue. C'est moi, Michel, c'est moi, ta Zéphirine. Réveille-toi, écoute-moi, réponds-moi, je t'aime. Si je t'ai fait de la peine, pardonne-moi. Mort, mort, oh mon Dieu, voyez qu'il est beau. Il était si bon, si intelligent, si aimable. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, si j'avais été là, il ne serait pas mort. Michel, Michel !» Le matin, elle se tut. On croyait qu'elle sommeillait, elle était morte.